brève visite chez nos voisins du Sud, hein, parce que les États-Unis sont plongés dans une panne administrative absolue, le fameux « shutdown » américain. Pour nous expliquer la situation, Valérie Beaudoin, chercheure associée à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand. Bonjour Valérie.
Bonjour.
Alors, on en est où là, dans cette histoire? Ça fait 3 semaines que ça dure et on négocie. On en est où dans les négociations de cette panne administrative aux États-Unis?
C'est très difficile à dire parce que ce qu'on entend des les échos des rencontres qui ont eu lieu au cours des derniers jours, c'est que ça va pas très très bien et que ça avance pas. Pourquoi? Parce que les deux parties, donc le camp Donald Trump et le camp des démocrates, veulent rester campés sur leur position. Alors en ce moment, on joue un peu un jeu de qui va flancher en premier, qui va laisser passer le financement du mur ou ne pas le laisser passer. Parce que Trump l'a dit. Un petit peu plus de 5 milliards de dollars pour commencer à construire ce nouveau mur-là. Il ne veut rien savoir. Il ne va pas signer le nouveau document pour le budget américain. Alors, ça va continuer, cette paralysie-là, de plusieurs instances fédérales aux États-Unis, tant qu'il n'y a pas un des deux côtés qui va flancher. Et les démocrates l'ont dit, c'est non, c'est non, c'est non. Jamais on va signer pour construire un mur.
En même temps, le président Trump a l'air de dire qu'il n'a même pas besoin de l'appui des démocrates. Il pourrait construire le mur quand même. C'est-tu vrai, ça, ou bah c'est...
Oui, ça, c'est assez particulier, cette déclaration. Puis je voyais les visages de ses conseillers qui étaient près de lui, dont son chef de cabinet, changer au même moment où il le disait. Ouais. Ils sont toujours un peu dans la surprise, je crois. bon, ça, c'est un autre débat, là, mais en fait, ce qu'il disait, c'est que, bon, ben, écoutez, oui, je pourrais utiliser des fonds d'urgence, et ça veut dire utiliser l'armée pour construire son mur. Où c'est un peu compliqué et où ça va être contesté devant les tribunaux, c'est certain, c'est que pourquoi... C'est une urgence nationale. C'est sûr qu'il utilise l'argument des terroristes qui peuvent passer par la frontière avec le Mexique. Ben mais ouais. Le pourcentage de terroristes qui passent par la frontière mexicaine, écoutez, ils ont de la difficulté à en trouver. Des criminels, ben des gens qui ont un passé, oui, ça peut arriver, mais des gens qui veulent venir ici pour commettre des actes terroristes et que ça justifierait l'armée de construire un mur, ça, on se dit, mais écoutez, ça se fait pas. Alors, s'il décidait de faire ça, ça va être contesté devant les tribunaux. On se disait, par exemple, écoutez, même Bush, quand il a dû envoyer les militaires pour Katrina. Alors, on était dans une urgence là majeure. Il a dû demander au Congrès pour pouvoir dire, bon, ben, écoutez, moi, j'envoie les militaires là-bas s'occuper de la sécurité intérieure. Donc, vraiment, on est loin de la voie facile qu'il semble dire, parce que les démocrates, en ce moment, s'entendent déjà pas pour le mur. Alors, je peux vous dire que ça va se contester, ça va se débattre s'il va de l'avant avec cette idée-là.
Mais le mur, ce fameux mur-là, a l'air tellement important pour Donald Trump. C'est comme si on avait l'impression que il y en a tellement parlé en campagne. Je me souviens dans les rassemblements, ça scandait « Build that wall, exact. Build that wall
oui. ».
Ce serait tellement un échec pour lui s'il ne réussissait pas à le construire que ça semble être pour ça qu'il tient mordicus comme ça.
Ouais, ben, je lisais ce matin dans le New York Times, il y a des anciens conseillers là, qui avaient dit ben, « Écoute, on lui avait donné cette idée-là du mur pendant quand on explorait voir s'il allait avoir une campagne présidentielle en se disant c'est la façon simple un peu de parler d'immigration pour Trump qui connaissait peu le dossier. C'était une image qu'on donnait pour les républicains qui étaient plus conservateurs qu'un mur. Ben, ça pouvait bloquer ces gens-là d'entrer aux États-Unis. » Ça a été toujours une espèce de discours qu'il a utilisé depuis le départ. Mais là, c'est comme s'il tenait il tient tellement mordicus à cette idée-là, c'est que tout le reste n'existe plus. S'il n'a pas son mur, eh bien là, il se dit, j'ai abandonné un peu les gens à qui j'ai promis ce mur-là depuis tellement de temps et je vais perdre la face, alors je veux le construire à tout prix. Ce qui est aussi important de mentionner, c'est qu'il dit, bon, on a déjà commencé à le construire. Il y a certaines déclarations comme ça qui se font ici et là. En ce moment, ce qu'on fait, c'est qu'on rénove des parties du mur qui sont existantes, là, les barrières qui entre le Mexique et les États-Unis, mais il n'y a rien qui est construit.
Ouais, c'est ça.
Et le 5,6 milliards, je fais toujours le parallèle en disant c'est un peu un cash down, donc une mise de fonds pour une maison, ça risque de tourner autour de 30 milliards, la construction du mur selon certaines évaluations.
Ah, on s'en ferait-tu du troisième lien, nous autres, avec
30 milliards?
on serait capable de se rendre jusqu'à 8-9e lien, certains.
Voilà, j'imagine.
Hey, Valérie, mais je te dis ça de même, mais je sais pas ce que t'en penses, mais Donald Trump étant d'abord avant tout un homme d'affaires, pourquoi le mur serait pas avec du péage?
Le qui paierait? Les Mexicains?
Non. Ceux qui traversent. Tu traverses,
oui,
c'est un mur à péage.
Mais écoutez, je suis pas sûre qu'ici, ils veulent déjà traverser légalement, qu'il y aurait un paiement qui pourrait se faire.
J'essayais d'être créatif.
Ben oui, écoutez, je suis certain qu'ils cherchent des façons créatives en ce moment.
Exactement.
Alors, si tu veux lui proposer idée,
ben
écoutez. S'il te répond, j'aimerais beaucoup le savoir.
pendant que ça négocie pour tenter de mettre fin à cette panne administrative-là, ce shutdown, il y a le Parti démocrate qui tranquillement, pas vite, commence à s'activer pour les présidentielles de 2020. Il y a un nom qui a surgi pendant le temps des fêtes, c'est celui de la sénatrice Elizabeth Warren. Qu'est-ce qu'on sait de cette femme-là? Est-ce que c'est sérieux comme candidature?
Ben oui, je dirais que c'est assez sérieux. C'est pas vraiment une surprise parce qu'elle était déjà pressentie, Elizabeth Warren, en 2016. On lui avait dit à un certain moment est-ce qu'elle voudrait se présenter, être aux côtés de Bernie Sanders et Hillary Clinton pour tenter d'être la candidate présidentielle. Elle avait passé son tour à ce moment-là. Mais Elizabeth Warren, bon, c'est une femme d'expérience, je dirais plutôt progressiste, qui ressemble un peu à Bernie Sanders là, dans ses positions. Un peu moins, je mets socialiste entre guillemets, que Bernie Sanders. Mais elle est contre Wall Street. Elle est vraiment pour être plus responsable financièrement aux États-Unis. Et c'est une critique de Donald Trump. Et d'ailleurs, lui aussi aime beaucoup la critiquer. Il la surnomme d'ailleurs Pocahontas, si vous avez déjà entendu ça. C'est dans sa liste de surnoms d'Elizabeth Warren. Par contre, on dit, bon, mais ça, c'est souvent le cas quand il y a une femme qui est candidate. Bon, elle est un peu froide, elle est moins charismatique, elle ressemble beaucoup à Hillary Clinton dans sa personnalité. C'est ce que certaines personnes vont lui reprocher. Est-ce que c'est valable? Ça reste à voir. Mais est-ce qu'elle va réussir à mobiliser les foules pour aller voter en 2020? Est-ce que c'est elle qui va être la candidate sortante? Je mettrais pas tout mon argent là-dessus. Elle fait partie là, de ces candidats-là qui ont plus de 70 ans, qui pourraient être nommés président, le 69 ans Elizabeth Warren. Il y a beaucoup qui aimeraient avoir quelqu'un un petit peu plus jeune, un petit peu plus... avoir un vent de changement à la Barack Obama. Là. C'est ce qu'on cherche pour l'élection de 2020.
Est-ce qu'il y a d'autres candidats qui ont signalé leur intérêt qui pourraient répondre à ce profil-là?
Ben les gens qu'on aimerait voir là chez les démocrates, bon, il y en a qui veulent de l'ancienne garde, un Joe Biden, ancien vice-président des États-Unis, mais lui, ouais. Écoutez, il a plus de 70 ans aussi, ouais. Il y a quand même quelques squelettes dans son placard, alors est-ce que c'est vraiment une bonne candidature? Ça reste à voir. Il y a une candidature intéressante, Beto O'Rourke, qui était là, la vedette montante, on dit que c'est le nouveau Barack Obama, au Texas, qui a presque battu Ted Cruz pour devenir sénateur. Il aurait pu devenir sénateur démocrate du Texas. C'est un homme politique déjà là-bas, bien connu. Je crois qu'il y a autour là, de 50 ans, dynamique. Mais là, ce qu'on se dit, est-ce qu'il est trop vert un peu, il est trop nouveau pour être contre Trump en 2020? Est-ce qu'il devrait attendre en 2024? Ça, c'est à voir. Il y a aussi Kamala Harris, qui est une sénatrice de la Californie, qui a 50 ans aussi environ, qui était, si vous avez écouté là, les audiences de Brett Kavanaugh, elle n'avait pas la langue dans sa poche, puis elle a laissé quand même sa marque. Donc, elle aussi, c'est une candidature qui est intéressante et à surveiller si elle décide de se présenter.
Valérie Beaudoin, chercheure associée à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand. Merci beaucoup.
Ça fait plaisir.
Salut. Bon dimanche. Au revoir. Puis évidemment, ben là, ça, c'est sans parler des candidatures un peu... les candidatures magazines, on va dire. Ah, Michelle Obama, Oprah Winfrey. Ça, écoute, ça, imagines-tu le jour... Moi, je le souhaite pas, je vous le dis tout de suite, là. J'ai rien contre Mme Winfrey, là. Mais le jour... où la présidentielle américaine, c'est Donald Trump contre Oprah Winfrey. On vit dans un monde de science-fiction.
Oui.
Les deux candidats républicains et démocrates, là, dans les livres d'histoire dans Milan, là, les iPads, dans les iPads de
le
l'histoire,
jour même là, que ça passe à TV, le
dans les annales. Là, ouais. Écoute, ça aura été mais 2020, Oprah Winfrey contre Donald Trump, ce serait incroyable.
On en a parlé beaucoup avec Éric Duhaime. Tu sais que j'étais avec Éric en fin de journée encore jusqu'à jeudi prochain. C'est toi qui vas être vendredi prochain, d'ailleurs, oui. En co-animation. Puis moi, perso, là, j'ai pas eu le temps d'en parler avec Valérie, là, mais pour que quelqu'un batte Donald Trump, c'est A ou B, tant qu'à moi. Au niveau du profil, je te dis pas qui.
Qu'est-ce que tu veux dire?
Je vais te dire ma théorie. Pour battre Donald Trump, il faut que tu aies le profil A ou B des deux profils suivants. Une grosse vedette.
Oprah Winfrey, mettons.
Michelle Obama.
Ouais.
Ou... un démocrate très patriote, ce qui est rarement le cas. Les démocrates sont pas patriotes. Ils sont pas genre USA first, tu comprends? Ils sont au contraire avec leur truc progressiste, puis nous sommes tous égaux, puis c'est fantastique.
C'est ça, le slogan, puis c'est vraiment là qu'on est, là. Oui. Le marketing, là, c'est plus go filet social que genre make America great again.
Ben, moi, je te dis que si c'est pas ce discours-là, mais avec un ADN démocrate, impossible de battre Donald Trump autrement de A ou B.